RMC Running,
Mathéo Rollet.
Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied. C'est le grand jour, vendredi 29 août, synonyme de grand départ de cette UTMB 2025. Nous y sommes, au cœur de la course, au plus près de cette atmosphère si spéciale, là où tout se passe, à Chamonix. Vous le savez désormais, RMC Running, spécialement délocalisé dans la capitale du trail français pour suivre cet événement mondial. Et on salue d'abord notre Johan Durand officiel, alias Maître Yodu, qui brillamment, il faut le dire, a assuré l'intérim hier. Hein.
Salut à tous.
Ça va
Yodu? Ouais, impeccable. Ouais. Très content d'être ici. Franchement, pour l'instant, on s'est pas mouillé. Non, je rigole, on s'est mouillé bien évidemment. Mais c'est un événement fabuleux, et franchement, moi qui viens du milieu de la route, je kiffe être là et ça donne vraiment envie de courir.
Bon, bah c'est super. Allez, qui dit délocalisation et événement exceptionnel, dit invité exceptionnel. On va saluer dans un instant Arthur Joyeux-Bouillon, pardon, ni plus ni moins que le 6e de l'UTMB 2024. Il ne prendra pas le départ cette année, il est au repos, mais on parlera tout de même de sa forme du moment et il nous donnera ses impressions sur la start list de cette année qui est plutôt relevée. Ça va Arthur?
Ça va très bien, écoute, très très bizarre pour moi de ne pas courir cette année, j'ai l'impression d'être un usurpateur ici, ça me fait drôle, je me dis
sans
mais
pression.
En fait, ouais je suis un touriste, ça fait 7 ans que je prépare les courses de l'UTMB, donc là voilà, mais je prends toute l'énergie pour l'an prochain.
On en parlera tout à l'heure également au micro d'RMC Running, Paul Cornu-Chauvin, trailer de la team ASICS, lui aussi ne prendra pas le départ de cette ultra. On aura donc tout le temps de revenir sur ses dernières performances et d'évoquer avec lui, bah, comme avec Arthur finalement, le bénéfice que peut apporter la pratique d'autres sports pour la performance. Ce sera aussi une sous-catégorie du podcast. Ça va Paul? Tout va bien?
Oui, ça va très bien. Effectivement, je ne cours pas cette semaine, mais c'est prévu depuis un moment. Pas de blessure, pas de soucis. J'avais un mois de juillet très chargé et c'est des courses qui se respectent ici. Je savais que je ne serais pas prêt pour la fin août, donc j'ai décidé de décaler les départs ici à l'année prochaine.
Et enfin, dans RMC Running, on a le bonheur d'accueillir Julien Chaurier, directeur des sports de l'UTMB. On va parler compétition, start list, on va parler tout de l'UTMB finalement. Ça va Julien?
Ouais, très bien, bonjour à tous, tout va bien.
Allez, bref, sortez vos baskets, trouvez-vous des sentiers, on va parler trail et UTMB.
RMC Running.
Allez, on va faire un petit tour de table pour commencer. Comment est-ce que ça va, Arthur? On disait pendant l'intro, moins de pression de ne pas courir après ces années finalement à pratiquer le trail sur les sorties de Chamonix en compétition.
Ouais, bah ça va très bien. Alors je peux pas dire que j'ai pas eu de pression du tout, mais je me suis jamais mis une grosse pression sur les courses de l'UTMB. J'ai tendance à dire, de toute façon, on va faire ce qu'on sait faire et ce qu'on peut faire avec les armes du moment. Donc juste très très content aussi de passer de l'autre côté un petit peu des sentiers, d'aller encourager les copains, de aussi discuter avec les sponsors, voilà, parce que c'est eux qui nous font vivre. Et puis revenir encore plus fort l'an prochain, je l'espère, sur l'UTMB.
Mais c'est quoi le plus fatigant? Parce que tu disais la semaine
dernière,
c'est la tournée des sponsors.
C'est un ultra,
hein,
aussi, quoi. C'est un deuxième ultra.
Et bah franchement, là, ma chérie vient d'arriver à Chamonix, je lui ai dit, c'est plus fatigant que l'UTMB quand tu le cours. Parce que en fait, en tant qu'athlète, on sait courir un ultra. Ça, c'est le truc standard.
C'est pourquoi tu t'entraînes tous les jours.
Ouais, c'est ça, c'est ultra fatigant. Mais là, passer les semaines entières à enchaîner les rendez-vous, quand en plus on est sportif, souvent on est mal organisé. Donc voilà, je suis là avec mon agenda, je comprends pas trop ce qui se passe. Les rues de Cham en vélo, ça va, mais c'est quand même compliqué. Donc plus fatigant d'être là cette semaine.
Paul, toi tu connais pas vraiment l'UTMB dans sa globalité, les 170 km de cette course. Par contre, t'as déjà fait des courses ici, tu sais l'atmosphère qu'il y a. C'est plus fatigant pour toi aussi de rester ici sans courir?
Oui, bah effectivement, l'année dernière moi j'ai fait la CCC, pas de 170 km, mais quand même une course très relevée. Et en fait quand on court, tout est fait pour qu'on arrive prêt le vendredi, surtout quand on court en fin de semaine. Et là, bah, cette semaine, c'est un peu l'inverse. On est prêt pour tout le monde et on se donne dispo pour les copains qui courent. On se donne dispo pour les sponsors qui nous aident. Donc en fait, le matin, tu te dis, si tu veux aller courir, en fait, tu te permets pas de te lever à 8h30. En fait. Tu te dis, si je veux aller courir, il faut que je me lève à 7 pour courir de 8h à 10h. Parce qu'après, tu enchaînes tous les trucs toute la journée.
Et puis Julien, bah toi c'est une pression différente finalement, parce que tu cours pas toi non plus, t'étais coureur de très haut niveau, aujourd'hui tu cours aussi très bien encore, hein, mais là la pression est différente, c'est plus l'organisation.
Ah bah là sur l'organisation c'est vraiment le pic, là on est vraiment au summum de l'intensité, Là, ça a commencé lundi matin. Là, c'est un peu comme ils évoquent. Hein. C'est vraiment une charge continue sur l'ensemble de la semaine. Mais pour comparer à la participation d'un ultra, c'est sûr qu'aujourd'hui, on est plus fatigué qu'un coureur. Mais ce soir à minuit, je pense que même si on suit, on aura quand même moins mal aux cannes que les coureurs.
Yodu, toi, ça te donne envie, tout ça, cette atmosphère qu'il y a autour de cette UTMB ?
Ouais, après, moi, je reviens à ce qu'ils sont en train de vivre. C'est vrai que moi, c'est pareil avec le Marathon de Paris. J'aime laisser un petit peu de temps entre deux événements, pas participer chaque année au Marathon de Paris pour justement laisser aller voir l'autre côté, la face B du Marathon de Paris, à savoir aller voir les partenaires, aller discuter, prendre le temps, aller encourager, aller sur le parcours, suivre la course en vélo. Moi, je l'ai fait sur le marathon et tu vois le marathon d'une autre façon que quand tu y participes. Donc ça, c'est plutôt cool. Et après, effectivement, moi, je suis sidéré par le monde qu'il y a. On m'avait dit, ouais, tu vas voir, c'est un truc de fou. Mais effectivement, c'est assez dingue. Et encore, on n'a pas encore vécu le départ de la vraie course entre guillemets, l'UTMB qui va partir tout à l'heure. Et on attend plus de 100 000 personnes sur 4 bornes, on en parlait tout à l'heure, mais la pression que vont vivre les 2500 coureurs avec la musique de départ, les 4 premiers kills, là il y a une ambiance, il y a un truc, et on en parlait en off tout à l'heure, mais c'est quelque chose qu'on ne ressent pas forcément sur un marathon. Même quand tu descends l'avenue des Champs-Élysées à Paris qui est mythique, bah t'as pas... j'ai jamais lâché une larmichette, hein. T'as 200 personnes, t'es sur les pavés, tu dois réguler ton allure, tu croises des mecs bourrés qui se lèvent encore, qui sortent du duplex, tu vois.
C'est à Chamonix,
t'es un peu plus tranquille. Et effectivement, le sentiment que vont vivre les 2500 coureurs, ça doit être dingue, ouais.
Et justement, on parlait des coureurs de l'UTMB. Je voulais juste, avant de continuer, saluer notre coureuse Claire Verzo qui on a suivi tout au long de sa préparation dans RMC Running, qui a bouclé l'OCC.
Bravo,
les
hein.
60 km et 3500 et quelques de D+ en 11h48. Donc 11h48 sur les sentiers.
Ah, c'est fort. Hein.
C'est fort. Bravo Claire, vraiment un grand chapeau à toi. On va continuer ce podcast avec la raison finalement de pourquoi vous ne courez pas à l'UTMB cette année. Peut-être Arthur est un petit bébé qui...
Non, pas que.
Pas que, mais bah, on peut dire, tu as été papa cette année.
Ouais.
Petit Marceau, c'est ça ?
Bah, il a 4 mois, il va avoir 4 mois dans 2-3 jours. Je ne sais plus quelle date on est, franchement. Le 30, il aura 4 mois. Donc alors, oui, en vrai... Je suis un peu soulagé de ne pas prendre le départ de l'UTMB pour ça, parce que bah, c'est une fatigue quand même extrême sur les premiers mois. Et chaque
s'est
année,
levé. Il va nous faire croire qu'il s'est levé cette, la nuit.
Alors la nuit, c'est sûr que j'aurais pas eu de problème pour rester éveillé. Mais non, en fait, c'est plus que chaque année quand je fais l'UTMB. Il y a les cloches qui commencent là.
Ça
va être que ça. Je me donne à 100% pendant 2 mois.
Et là, c'était trop compliqué.
Et j'en ressors, comme il dit Julien, finalement. En vrai, quand on court l'UTMB, on est plus fatigué parce qu'on en ressort vidé complet. Donc pour ça, je suis quand même soulagé. Et de deux, c'est que ça fait plusieurs années que je rêve d'aller sur la Diagonale des Fous, justement sans fatigue. Je l'ai fait 2 fois en ayant fait la TDS. J'ai, entre guillemets, regretté d'y être allé parce que c'était trop dur là-bas. Donc cette année, j'ai dit mon rêve, c'est la Diagonale des Fous. Je fais l'impasse sur l'UTMB et voilà. Mais j'aurais aimé faire les deux en vrai.
Ouais.
Et toi, Paul, évident. Tu disais que l'UTMB, ça sera plutôt pour l'année prochaine. Pourquoi pas cette année finalement ? C'était trop tôt ?
Cette année, c'était trop tôt. L'année dernière, quand j'ai bouclé la CCC, qu'on a été en discussion avec tout mon staff, quel est le programme de l'année prochaine ? Je savais que mon mois de juillet allait être un mois très compliqué pour l'entraînement. À côté, je suis entraîneur de kayak. On y reviendra tout à l'heure là, de ma première vie de kayakiste. Et j'organisais les championnats du monde. Et derrière, j'emmenais les jeunes sur les championnats de France. Donc en fait, je me retrouvais sur 30 jours à en bosser 25 et à en bosser 10-12 heures par jour. Donc là, l'entraînement, j'ai réussi un petit peu, mais en fait, ça, c'est pas du tout cohérent par rapport à préparer un événement comme celui-là. Et donc j'ai toujours eu l'objectif de faire l'UTMB, je l'ai toujours, et je veux vraiment arriver sur cette course prêt. Et je savais un an à l'avance que je ne serais pas prêt ce week-end, donc j'ai dit dès le début je ne le ferai pas, je vais courir un ultra dans un peu plus longtemps pour être au départ l'année prochaine. C'est vraiment l'objectif de ma saison 2026, ce sera d'être le mieux possible sur l'UTMB.
Prendre de l'expérience justement pour réussir cette course mythique, pas faire
un ultra comme ça sans être préparé.
C'est ça, tout à l'heure je parlais de respecter la course. Je trouve qu'il y a maintenant il y a des solutions pour aller sur l'UTMB. Si on se qualifie sur un format 100 km, on peut prétendre à courir l'UTMB. Mais en fait, un 100 miles, j'en ai pas couru encore. Arthur, je pense, pourra nous le dire, mais c'est autre chose entre courir 100, où on est sur des formats 10, 12, 14 heures selon le profil de la course, et sur un format 160 où il y a même les plus rapides, on est sur du 16 heures, et là on parle de la western, hein. Sinon ouais, on est plutôt TMB, sur du 20 heures. C'est quelques heures en plus, en fait, ça change tout. Et moi je veux me présenter sur cette course avec cette expérience déjà d'avoir couru pendant 20, 21, 22 heures. En course, parce qu'à l'entraînement je l'ai déjà fait en off, sur des projets, etc. Mais en course c'est encore autre chose.
Et tu parlais d'expérience, il y a l'expérience de la course certes, mais il y a aussi l'expérience de l'avant-course. Il y a tout un protocole, peut-être que ceux qui font pas forcément de trail ne le savent pas, mais les ravitaillements, il faut gérer tout ça, c'est une surcharge aussi mentale. On en parlait avec Yodu, pour toi c'est quand même on peut arriver cramé dès le début en fait, parce que c'est un protocole qui est lourd par rapport au marathon.
Surtout sur un premier, tu vois, je pense quand t'as l'expérience, quand t'es un vieux briscard de la distance, hein, Ludo Pommeret, je pense qu'il doit quand même moins stresser qu'un Théo Détienne pour qui c'est son premier par exemple. Effectivement, on parle de plus de 20 heures d'effort pour les premiers et 30 heures pour quelqu'un de lambda, donc t'imagines le temps qui doit passer en effort en extérieur, et donc effectivement t'as pas le droit de te planter sur un marathon. Tu peux louper un ravito, c'est un effort de 2h30, 3h, 4h, tu sais que ça va avoir une petite incidence sur tes performances. Mais si tu commences à avoir mal au bide au 45e parce que t'as mis full glucide dans l'organisme, c'est dangereux. Donc effectivement, c'est quelque chose qu'il ne faut pas laisser au hasard. Il faut bien gérer ses ravitaillements, il faut gérer son équipe, il faut vraiment bien faire les choses. Et je pense que ça, c'est un côté stressant pour les coureurs et qu'il faut vraiment être préparé et être ultra carré là-dessus pour éviter le moindre désagrément et pas se retrouver en faisant des erreurs.
Ouais. Arthur, toi qui as l'habitude, ouais, c'est toujours quelque chose qui te stresse quand même.
Non, justement, alors je comprends et je pense que beaucoup sont dans ce cas-là, mais moi personnellement j'ai fait de l'ultra et je fais de l'ultra pour ça. C'est-à-dire que j'ai
pour ce stress.
Ouais. L'hiver j'aime bien déconnecter et faire des verticales en ski et voilà. Il n'y a que tu manges pas, tu bois pas, tu donnes tout ce que tu as. Mais en fait, ce qui me passionne, c'est, je dis pas qu'on fait un sport qui demande d'être intelligent, mais en fait, la partie nutrition, planification, avec son crew, savoir que les bouteilles sont la poudrée à gauche, l'eau est à droite, ça. Tu vois, ça, c'est. Enfin, je trouve que c'est comme un peu de la Formule 1. Il faut extrêmement réfléchir avant.
Une stratégie, tout à fait.
Ouais. Alors, ça pompe de l'énergie. Hein. Julien, il a eu sa carrière. Avant nous, donc c'est eux qui nous ont aussi appris beaucoup de choses, mais ça devient un automatisme. Mais c'est vrai qu'au début ça pompe de l'énergie et moi c'est ce qui me passionne, parce qu'en fait la veille de l'UTMB, je disais tout à l'heure je vais faire ce que je sais faire, il n'y a plus qu'à courir.
Je le reste, toi, ça, c'est quelque chose qui a changé. T'as fait quand même podium ici à Chamonix en tant qu'athlète avant d'être aujourd'hui directeur des sports de l'UTMB. C'est quelque chose qui a changé. Est-ce que cette nouvelle génération s'alimente plus, s'alimente mieux, ou c'est pas vraiment changeant?
Il y a une certaine évolution de la pratique, hein, et on est sur une professionnalisation du sport certaine. Après, il y a des athlètes qui ont toujours vraiment organisé les choses. Après, c'est sûr qu'avant, un athlète, il s'entraînait beaucoup. Il s'entraînait 15 heures par semaine. Maintenant, c'est plutôt 25-30. Au niveau des apports, pareil, glucidiques, un athlète qui s'alimentait beaucoup, il était à 50 grammes. Maintenant, il est à 90, ouais, voire 100 pour certains. Donc, c'est sûr que ça a évolué. Mais ça a évolué de la même manière que ça va 10% plus vite qu'avant. Ça a quasiment gagné 2 heures sur l'UTMB. Donc, les athlètes... Allant beaucoup plus vite, il faut qu'ils s'alimentent différemment et tout est optimisé. Ça va du matériel, du poids des chaussures, de tout, quoi.
D'ailleurs, Arthur, Paul, vous alimentez à hauteur de combien de grammes par heure en général sur des courses?
Moi, perso, c'est ce que dit Julien, je suis à 85-90 grammes heure.
Pour l'ultra, c'est beaucoup.
Ouais, mais après, comme il dit, les intensités ont augmenté. Tu vois, on commence, moi sur les départs, je suis au ressenti 7 sur 10. Donc en fait, il faut maintenir cette énergie dans le moteur. Et si ça passe, en fait, tant mieux. Après, à chacun de trouver sa nutrition. C'est surtout ça le gros enjeu, et de ne pas stresser avant pour éviter de te retourner le bide dès le départ, quoi. Donc moi j'ai plus de soucis de nutrition, je sais que je peux y aller, quoi.
Paul, toi c'est environ pareil,
80, oui, c'est à peu près pareil. Je vais être plus sur des apports qui sont pas forcément lissés. Pas toutes les heures, il y a 80 ou 90. Il va y avoir des moments où on est même au-dessus de 100. Enfin, moi, je sais que je suis au-dessus de 100, mais par contre, des moments où je suis plutôt à 50 sur une heure.
Et parce en fait, que ton corps encaisse bien aussi. C'est difficile quand on est amateur, par exemple, de prendre 100 grammes sans s'entraîner.
J'allais y venir. Archel disait qu'il avait plus de soucis intestinaux, mais parce que je suppose qu'à l'entraînement, tu pars pas faire 5 heures sans manger. Et en fait, ça, c'est indéniable. Là, je suis encore allé faire 4 heures ce matin, bah, j'ai fait du 80 grammes heure à l'entraînement. Parce que derrière, en course, je sais que c'est ce que je vais avoir besoin. Et si, quand on fait 4-5 heures à l'entraînement, bah, on ne prépare pas ça. Derrière, quand on va en faire 20, bah oui, ça tient 1 heure, ça tient 2 heures, et puis 3. Puis après, tu arrives à 6, tu t'es, je commence à avoir un petit peu mal au ventre. Et à 10, tu t'alimentes plus, et à 15, tu as arrêté la course.
Ah ben, c'est ça.
En fait, c'est comme ça.
Sur marathon, on tourne aussi à 80 grammes ou c'est un peu plus
un peu
parce
moins.
Que ça court plus vite?
Un peu moins. Après, on court plus vite, mais surtout, je reviens à la durée d'effort. On a 2 heures d'effort. Donc, si tu fais ton régime dissocié la semaine avant, tu charges un malto 3 jours avant, tu bois une boisson d'effort avant le départ. Déjà, normalement, sans ravito, tu peux tenir une heure et demie. Tu as suffisamment dans le moteur, donc tu n'as pas besoin d'être sur ces pics-là. Mais effectivement, c'est ultra important. Et après, bah, ce qui peut varier aussi, c'est la météo, tu vois, l'alimentation. Comment les mecs vont réussir à s'alimenter dans les sommets s'il fait 0 degré? Est-ce que tu bascules sur des boissons plutôt chaudes que sur de la boisson iso? Enfin, il y a tout un protocole à aussi... penser en fonction des conditions météo. Là, cette année, ça va être compliqué parce qu'il va faire froid, mais il ferait chaud, bah, faudrait boire davantage, etc. Quoi.
Oui, c'est très changeant, Arthur, en fonction des conditions, c'est ça?
Ouais, souvent, le sac de ravitaillement de notre crew, il est assez énorme.
Ouais.
Il y a plusieurs options.
Ouais, on prévoit plusieurs options. Alors, comme tu dis, aujourd'hui, on sait que les conditions vont être fraîches sur les sommets, donc on va s'hydrater normalement un petit peu moins. Là, les 3 dernières années sur l'UTMB, il faisait très très chaud la journée. Chaud, ouais. Bon, les athlètes français, c'est pour ça qu'on en reviendra sur le pronostic, mais je pense que ceux qui font du ski l'hiver, là, c'est les plus heureux du monde.
Ah ouais.
Bah, en fait, du moins 5, moins 6 sur les sommets, nous, on adore.
Ouais.
Parce que, en fait, ça régule la température corporelle. On n'a pas froid, on met une petite paire de gants et c'est fini, quoi.
Oui, ça va. T-shirt. Oui.
Personnellement, j'ai jamais mis la veste coupe-vent sur une course de l'UTMB depuis 7 ans.
Ah ouais.
Parce que, voilà, je suis pas frileux et... Et je préfère quand il fait froid, mais on encore une fois, en amont, on regarde un peu tout ce qui peut se faire. Et en fonction des conditions météo, notre staff, notre crew, il est au courant que voilà, ça peut switcher de l'un à l'autre. Et je reviendrai juste sur un truc, c'est que comme on parlait du 100 km, 100 miles, moi sur le 100 miles, ceux qui veulent s'y mettre, sur les entraînements, ce que je fais, c'est que parfois aussi, 5 heures d'entraînement, je ne mange pas.
Ouais.
Parce que... Si tu t'habitues trop à tout le temps apporter de l'énergie dans le moteur, le jour où ça va pas bien sur une course sur l'UTMB au bout de 15 heures, que tu peux plus t'alimenter pendant 2 heures, les gars, ils mettent le clignotant, c'est hypo de l'espace.
Il n'y a plus l'effet escompté de l'apport glucidique.
Exactement, sauf que si tu es habitué aussi ton corps à aller en lipolyse sur des sorties longues, en fait, tu switches assez vite. T'auras une demi-heure de pas bien, hein. Mais ça va aller beaucoup mieux rapidement. Donc, pas faire que manger tout le temps aussi. Voilà, c'était juste l'aparté.
Oui, du coup, on parlait de cet aspect de nutrition qui est très énergivore avant une course. C'est aussi pour ça que l'Ultra Trail est très dur aussi niveau mental. Je le disais, est-ce que vous êtes déjà arrivé, par exemple, cramé avant un départ? Ou pas cramé, mais très fatigué au niveau mental, pas physique?
Ouais, typique cette année, le 90 du Mont-Blanc... je reviens sur cette course que je préparais.
C'était un gros objectif pour toi.
C'était un des objectifs de ma saison, clairement. Sauf que une semaine après, j'étais sur l'organisation des championnats du monde et ça faisait déjà plusieurs mois qu'on était en train de l'organiser. Donc en fait, il y a eu un mélange de mon entraînement, de la préparation d'un événement d'envergure internationale qui a fait que mentalement, j'ai pas pris le temps de voir toute la nutrition avant. Je l'ai fait la veille de la course. En fait, c'est toutes des petites choses. On sait que c'est quand même bien d'être... Arthur, il disait tout à l'heure, la veille de la course, en fait, t'as juste à te reposer. Tu sais que t'as plus qu'à courir. Moi, je suis arrivé la veille de ma course, là, à devoir gérer le plan nutrition. Mais à quelle heure je vais passer à tel endroit, machin. Donc en fait, j'ai fait 30 bornes et j'ai dit, non, là, en fait, ça sert plus à rien, mental, ouais. c'est perdu. Enfin, et donc, oui, et arriver cramé, souvent, on le sous-estime et on le sait, en fait, avant le départ. C'est souvent, quand on court sur aussi longtemps, je sais pas, en marathon, ce que ça dit aussi, mais si tu vises un 2h07, 8, tu sais si tu peux l'avoir dans les jambes ou c'était plutôt à 2h10, je pense.
Ouais.
Et nous, sur Ultra, c'est un peu pareil, tu sais si tu peux partir devant. Ou quoi. Si ça va pas trop bien se passer.
Il faut partir prudemment et essayer de remonter, ouais.
Mais ouais, voilà, c'est ça.
Toi, tu le sais aussi, avant un marathon, est-ce que t'as cette petite voix dans ta tête qui te dit « Mec, là, ça va être chaud », mais tu refuses d'y croire, en fait. T'essayes quand même de...
Ouais, tu te mentalises quand même la performance. Hein. Tu pars pas... Si tu pars avec en doutant un peu, c'est vrai que généralement, c'est compliqué. Donc, tu mentalises quand même de la réussite. Même si, des fois, alors des fois, honnêtement, une fois j'ai fait le marathon de Milan juste après le Covid et je m'étais dit, ouais, au bout de 15 bornes, je vais abandonner parce que la prépa avait été moyenne ou autre. Et puis au final, au 20e, tu te retrouves là et tu commences à bastonner les mecs et d'un seul coup, tu te retrouves dans une euphorie et ça alors démarre peut-être. Alors qu'à la base, tu venais un peu à la rage totale, la prépa s'est mal passée. Donc ça, des fois, on trouve des gens, mais on arrive à switcher assez vite. Mais sur cette fatigue mentale, je pense que le rôle de Julien en tant que directeur est hyper important pour faciliter tout ce qui est facilitateur de la vie de l'athlète de haut niveau. C'est hyper important. On ne se rend pas compte de l'importance d'un staff. Mais nous, sur marathon, c'est déjà ultra important. Alors j'imagine sur un ultra entre le coach, les accompagnants, ceux qui te font te ravito, ceux qui vont te donner les temps de passage, ceux qui sont là pour te rassurer, ceux qui vont trouver les mots pour te rebooster quand au bout de 100 bornes et une nuit dehors, tu as envie de tout envoyer, chier. Et du coup, ouais, le rôle de Julien, je trouve, est ultra important pour justement soulager le côté mental des athlètes. Ouais.
Ah, Julien, comme tu as été athlète en plus, tu sais ce que les athlètes ont besoin.
Bah, l'objectif de notre côté organisation, c'est justement d'éviter au maximum les contraintes, être dans le compromis le plus acceptable possible et pour transférer après au team manager les contraintes de l'événement sur des cérémonies, choses comme ça, à leurs athlètes, mais essayer de faire pour que ce soit le plus acceptable possible en prenant en compte toutes les contraintes de l'événement. Mais c'est sûr que c'est vraiment important. Parce que bah, pour de l'événement, il faudrait avoir tout le monde 2 heures avant la course, faire parce que les médias voudraient depuis ce matin faire des interviews avec tous les athlètes. Non, nous, côté Orga, par exemple pour l'UTMB, il y a juste 1 heure de presse qui est le mercredi, loin de l'événement, pour que les athlètes, derrière, ils puissent se reposer, se préparer à la course. Après, les contraintes, il y en a là toute la semaine. Donc après, à chaque team manager, à chaque athlète, de les gérer. Mais nous, de notre côté, on essaye de les restreindre un maximum pour que bah, ils arrivent tous dans les meilleures conditions possibles et de manière très équitable entre eux surtout.
Bon messieurs, on a quand même fait le tour du sujet, mais on va voir justement sur cette UTMB 2025 qui va arriver à être le plus frais au départ, avoir la meilleure stratégie. On a une start list.
Il faut interroger Arthur, il a l'air d'avoir des infos sur, sur la forme des Français, la météo.
Non, ça, Arthur, on a une start list de fou encore cette année. Hein.
Ouais, alors certains disent qu'il y a moins de niveaux que les années où il y a Kylian. Moi, je trouve en fait que sur l'UTMB, il ne faut pas forcément regarder les meilleures cotations ou les stars, entre guillemets. Parce que chaque année, on voit très bien que souvent, ça éclate un peu de partout.
Et moi, de plus en plus vite.
Ouais. Et moi j'ai l'impression que... Bah, c'est ça. Mais cette année, j'ai l'impression que c'est très dense.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on a peut-être moins de stars, mais plus de densité possible sur le top 10. Donc j'ai vraiment hâte de suivre ça. Je pense que ça va être hyper intéressant hein, de voir les changements de position devant. Et puis la météo qui va, comme je disais, je pense favoriser les Français plutôt que les Américains.
Le match est lancé.
On m'a tellement posé de fois la question pronostic que j'ai maintenant ma petite idée, mais
je l'ai pas encore posée.
Ouais, je sais, donc je réfléchis encore.
Ça va venir.
C'est à toi de me demander quand.
Non, Julien, ouais. plus sérieusement, la start list est folle. On a l'impression que, justement, comme disait Arthur, la densité est dingue et que 10 voire peut-être 15 gars peuvent gagner, quoi.
Ouais, on se retrouve tous les ans à avoir un nombre d'athlètes qu'on définit comme top élite avec un index UTMB que ce soit chez les hommes supérieur à 900 ou chez les femmes supérieur à 750 qui dépasse la dizaine. Donc c'est vraiment, si on fait le parallèle avec l'athlète, c'est de l'international quoi, vraiment les top qui sont là. Donc une course qui va être assez incroyable. Et ce que dit Arthur, c'est une densité chez les hommes et chez les femmes il n'y a pas un, de mon côté en tout cas, quelqu'un qui se détache, qui devrait facilement l'emporter. Et donc ça annonce une bagarre assez incroyable, fin de journée pour la CCC et toute la nuit et demain pour l'UTMB. Vraiment, ça va être dur d'aller se coucher.
Paul, t'as hâte de suivre ça d'ailleurs. Toi, tu vas suivre de très près. Hein. Je crois que tu y vas sur le parcours cette nuit.
Ouais, je vais sur le parcours. On a quand même plusieurs athlètes chez ASICS là, qui font partie de ces cotes à plus de 900. Donc, je disais, moi, cette semaine, mon rôle, c'est vraiment de faciliter la vie de ceux qui courent. Donc, je vais être sur les ravitaux à donner des temps, à aider au maximum toute l'équipe pour que ça se passe le mieux, ouais.
Pour prendre un max d'expérience pour l'année prochaine, finalement. La prochaine, c'est toi qui as les baskets.
Exactement. Et l'année prochaine, j'aurai les baskets, donc voir aussi en plein milieu de la nuit l'état des mecs, comment ça avance et tout ça. En fait, ça va être une bonne expérience, même si je cours pas, en fait, d'aller voir sur le terrain qu'est-ce qui se passe à telle heure, dans la course, voir aussi. Je pense que ça, c'est très intéressant. Mais cette année, je pense que celui qui passe en premier à Courmayeur, c'est pas forcément celui qui passera en premier au Grand Col Ferré. Et encore au Grand Col Ferré, ce sera peut-être pas celui qui sera le premier à la foulie. Alors qu'il y a 10 bornes à chaque fois entre. Et on a vu hier sur l'OCC un final terrible. Enfin,
donc une moi tape sur l'épaule quand même. Hein.
Ouais. Ah, ouais, il fallait.
Ça, c'est... En tant qu'athlète, on n'aurait pas aimé être à la place de l'Italien.
Ouais, après sur l'UTMB, on est tous d'avis qu'il n'y a pas d'arrivée main dans la main.
Ouais,
c'est ça. Ça c'est oui.
J'en ai fait une samedi et je sais que j'aurais pas fait ça sur l'UTMB, ça aurait été ok quoi.
Il y a bagarre en fait. Ouais,
c'est le sport.
C'est la compète. Il y a tout ce qu'on dit, l'esprit trail et tout ça. Il y a des courses sur lesquelles ça s'y prête, comme tu disais Arthur. L'UTMB.
Ah, c'est le championnat du monde. Hein.
5
on va pas se mentir,
6,
hein,
en fait,
c'est
ça
le championnat du monde.
Choses.
Donc, dans quel sport au championnat du monde tu termines main dans la main? Alors, même si c'est ton meilleur pote, c'est respecter la course. On parlait de course mythique. Bah, le respect, c'est que les athlètes doivent se donner à 2000%. Et ouais, là, c'est...
Bah, je pense à cette bataille qui est restée dans notre cœur pour nous Français,
oui,
entre Kylian Jornet et Mathieu Blanchard, évidemment. On avait tous un peu
c'est magnifique,
le
démon
qui
vient de
ça.
C'est ça qui est épique,
fort,
ouais, c'est, on veut de la bagarre. Ouais.
Mais bon, c'est mieux que ça finisse comme ça que plutôt que les deux mains dans la main où on n'a pas de vainqueur désigné, on est d'accord.
Bon. Ouais.
Et aussi, bah, je vais vous laisser y réfléchir, messieurs, je vais vous laisser tranquille là-dessus. Je vais d'abord demander à Maître Yodu son célèbre pronostic. Pour.
Ouais.
Bah oui, on est obligé, il faut te mouiller, Yodu.
Bah moi, je vais répondre à un truc relativement classique, mais juste pour la beauté du truc... Parce que je l'ai côtoyé au CERS à Cap-Breton, François Daen, en 2000, on était blessés ensemble en 2022, je crois. Et juste pour la... Il n'a pas couru ici depuis 2021 et on sait d'où il vient. C'est un ancien un peu comme moi, hein, tu vois. Je m'accroche aux branches, j'essaye encore de perfer sur marathon à mon âge. Et donc, bah, du coup, j'aimerais bien que François s'impose pour la belle histoire, même si j'ai aucune info de savoir son niveau de forme et si vraiment est-ce qu'il est en forme ou pas, je ne sais pas, mais...
T'es
pour la magie
papiers,
de l'histoire, je trouve, je valide François, ouais.
T'es dans les petits papiers, tu veux pas nous la faire. Non, François, il a couru, hein, François, l'année dernière, sur la longue, sur la 300 km.
Ouais, mais sur l'UTMB, ouais.
Mais sur l'UTMB, ouais, ça fait un petit moment. Bon, messieurs, il faut se mouiller maintenant. Un petit pronostic, Julien.
Allez.
J'ai pas de nom.
Il a un droit de réserve. Il a pas le droit de parler.
C'est pas une nationalité, alors.
C'est... Ah, mais une nationalité.
Vincent, dis-nous, tiens, une surprise comme l'année dernière, Vincent.
Justement, une surprise. Pour moi, Vincent, c'en était pas totalement une, parce que je le connaissais très bien. Mais on a quand même tous été surpris de le voir aussi loin devant. Après, non, je donnerai pas de nom, parce que le temps,
si
j'y arrive pas. Et on fait un tour et j'essaie sur le retour d'avoir...
On reviendra peut-être pour un top 3, pas forcément dans l'ordre. Ouais. Arthur, allez, oui, toi.
Ouais, moi, alors...
Objectif,
moi, en vainqueur, je vois François.
Ouais.
Pourquoi? Parce que François, il a gagné 4 fois. Ouais. Il revient pas pour finir. Il l'a fini maintes et maintes fois. Je pense qu'il est là pour gagner. Il a jamais fait une prépa aussi méticuleuse. J'ai discuté avec lui hier.
Ah, voilà.
Donc,
on a les infos.
J'avais pas les infos.
Ouais,
mais...
j'ai eu quelques infos, mais je les savais aussi d'avant. Il a jamais fait une aussi grosse prépa. Quand il met sur Strava, François, c'est pas pour juste mettre sur Strava. C'est pour montrer
pour
aux
montrer,
autres que
ouais.
Je suis là. Et puis il a dit tout va bien. Donc quand tout va bien, bah voilà, on sait ce qui se produit. Et encore une fois, je disais météo, Pour moi, c'est un skieur, quelqu'un de la montagne. Ah,
quand
en tout
tu
cas.
Vis dans le Beaufortin, c'est non, pas moins 5 degrés qui vont te faire peur. Hein.
Paul, il a raison, avoir au Grand Col Ferré, mais je pense que les changements, ils vont se faire sur les cols. Ou alors les coups de froid se feront là-bas. Ça va switcher.
Peut-être donc, revenir de l'arrière alors.
Ouais. Alors François il aime bien partir devant quand même, mais cette année devant ça va partir
après,
très fort.
Après l'UTMB c'est que tout le monde aime partir devant.
Ouais c'est ça. Donc, mais quand même François en 1, en 2 c'est là où j'ai une hésitation parce que je verrais bien Bendyman.
D'accord.
Bendyman qui moi les deux dernières éditions je l'ai vu bâcher à Courmayeur quand j'arrive. Parce que voilà il allait pas bien. Cette année il vient gagner, il a fait une saison courte exprès pour UTMB, il vit dans les Pyrénées maintenant. Donc voilà c'est pas un Américain qui vit dans le chaud. Donc Bendyman en 2 et en 3 c'est parce que là c'est le coup de cœur mais peut-être la surprise c'est mon Ludo Pommeré parce que pareil bah voilà la remontada lui il a pas froid donc il va aller faire le ramasse mort. Non je rigole mais j'aimerais bien en fait
il sera voilà. 150e au kilomètre 80 bah, et finir sur le podium
même pas fatigué de l'arbre
il a toujours fait mieux l'an dernier il me double il fait 5 bah cette année 3
voilà. Et toi Paul alors?
Moi, je rejoins pas mal l'idée de François Daen. Je le mettrais pas gagnant. Je pense que ça fait un petit moment qu'il se cherche, justement, avec deux années très très compliquées. Et là, on a beaucoup d'interrogations sur sa forme. Donc, il y a ceux qui disent qu'il a préparé, etc. Et après, quand on regarde quand même à échelle de 2 ans, ça a été 2 années compliquées pour lui. Donc moi, je le vois sur le podium, c'est sûr. Mais pour aller gagner, j'ai l'impression qu'il y a besoin d'un mental, de quelque chose en plus. Et pour le coup, moi, je m'entraîne régulièrement avec Ben Diman.
Voilà. Et c'est la Asics Family, ça,
ouais,
on est là.
Ça,
en plus, avec les Fuji Trail, c'est la vie de mes chaussures.
J'habite dans les Pyrénées. Lui aussi, on s'entraîne régulièrement ensemble. L'UTMB, c'est quelque chose qu'il veut cocher dans sa vie. Là, cette année, il est stratosphérique.
Enfin, tu le sens bien. Ouais.
Ouais, au Lavaredo, il fait une course de fou. Il s'est bien reposé derrière. Il y en a qui. J'ai discuté avec pas mal de monde qui pensent qu'il peut en avoir fait un peu trop en ce début de saison. On verra cette nuit, mais comme tu disais, c'est pas du tout un Américain qui vit en Amérique. Il vit à Bagnères-de-Bigorre où il fait sur l'année, il doit faire 5 degrés. Tu vois.
Ça fait pas très Américain Bagnères-de-Bigorre.
Ouais, voilà, c'est ça.
Le grand écart. Voilà,
l'interrogation que je vais avoir sur lui, c'est surtout Ben, il aime courir devant. Donc si dans les premières heures il est pas bien, comment est-ce qu'il va réagir? Moi, c'est un peu c'est l'interrogation que j'ai. Il est extrêmement fort cette année, je pense. Donc on verra, ouais.
Et en 3.
Et oui.
Et en 3, je...
Arthur, il est animateur, en fait. Ouais. Il calcule.
Je sais pas. Je me dis que John Albon, ça peut être long, mais à côté, il a des qualités de vitesse qui font que peut-être que sur un début de course, il sera plus bas en régime, en fait, que les ultra-trailers. Donc, ça peut faire sur le long quelque chose de bien. Donc, je vois bien Ben en 1, François en 2 et John en 3.
J'aime bien ça peut être long. Ça peut...
mais par contre, je pense que ce que Julien veut dire, et là où si c'est ça, je le rejoins, on parle beaucoup du top 3 sur l'UTMB. Mais là où ça va être hyper intéressant, parce que nous, on les connaît tous, les élites sur l'UTMB, c'est le top 10. Et en fait, là, ça va être fou. Parce que,
là,
parce que le podium UTMB, en réalité, c'est les 10 premiers.
Oui, ça peut changer une carrière d'être 10e de l'UTMB.
Là, les pronostics injouables. Enfin,
C'est vraiment injouable. Et dans cette shortlist que je valide à 200%, un Tom Evans, je pense, il est potentiellement aussi sur le podium. Et c'est là que c'est super dur. Et elle est longue, cette liste des mecs qui peuvent être sur le podium. On est sur 10-15 gars qui, pour moi, peuvent faire un podium. Et après, le pronostic, voilà, il est compliqué, mais pas oublier, je pense, Tom, quelle expérience aussi. Et donc, c'est intéressant. Mais la course homme va être intéressante et la course femme va être folle. Donc,
oui, c'est plus facile chez les femmes avec Courtenay, non
facile,
elle est quand même
favorite. Route Croft.
Oui, c'est ce que beaucoup de. Ce nom ressort pas mal.
Ah ouais, parce que l'an dernier, deux.
Et une expérience. Une science et une approche vraiment scientifique de la course. Donc un pacing, c'est deux femmes qui ont tendance à courir très intelligemment, bien plus que la majorité des hommes, c'est-à-dire un pacing hyper contrôlé en début de course. Mais le truc, c'est que ça bouge pas pendant 160 bornes. Donc quand on voit la progression au scratch de ces deux femmes, c'est hallucinant. Et pour rentrer ou se rapprocher ou rentrer dans le top 10 au scratch à la fin, c'est assez hallucinant. Et ça, on ne le retrouve pas dans le marathon. Quoi, des femmes qui vont titiller le top 10 au scratch.
C'est impossible. Ouais.
Voilà. Et là, c'est vraiment des femmes extraordinaires.
Bon, on verra. Faudra suivre ça. Ouais. Hein, ça démarre.
On a les cotes hein, maintenant. On verra demain soir qui a raison.
Quoi. Ouais. Mais restez éveillés cette nuit hein, parce qu'il va se passer beaucoup de choses, notamment.
On aurait pu faire
nuit,
on aurait pu faire un truc avec. Qui gagne avec les 10 premiers. C'est comme au loto. Ouais.
Allez.
Parce que là ça va être chaud. Là.
Mais c'est pas mes sous personnels pour le jackpot. Hein, je vous le dis. Bon, on a parlé stratégie, on va parler entraînement et surtout entraînement croisé maintenant. C'est parti. Allez, entraînement croisé parce que c'est vrai que finalement le trail c'est peut-être la discipline qui s'y prête le plus.
Oui.
Parce que très difficile de faire 30-40 heures de trail uniquement. Voilà, c'est quand on parle d'entraînement dans le trail, c'est aussi d'autres sports, le vélo, la natation, le ski, beaucoup. Paul, toi, tu viens du kayak, tu as été champion du monde junior de kayak slalom et aujourd'hui, c'est aussi ton métier, tu es entraîneur de kayak. C'est important aussi pour toi de ne pas faire que courir.
Oui, bah justement, on est un sport avec beaucoup d'impact, avec malheureusement des blessures, des coups de moins bien, etc. Et moi, j'ai toujours eu besoin en fait, de me sentir assez utile dans ce que je fais. Et c'est vrai que quand on court quand même beaucoup pour nous. Et je trouve ça intéressant, en fait, moi, je suis avec des jeunes qui ont entre 10 et 18 ans. Et en fait, tout ce volet éducation, par le sport, c'est quelque chose qui m'anime depuis très longtemps. Donc moi, c'est par le kayak, parce que c'est par là que je suis passé. Et je trouve ça vraiment, vraiment top de garder une part dans un peu dans la vie réelle, en fait.
Toi, Arthur, ton truc, c'est le ski. L'hiver, ça ski. Non, c'est important pour faire la caisse pour l'été.
Ouais, alors, il y en a de plus en plus qui se mettent au ski parce qu'ils font de l'ultra. Mais... moi, je viens du ski. Mon père était moniteur. Enfin, voilà, je pense que je faisais du ski avant de faire du vélo ou même que de courir dans les champs. Donc, en vrai, aujourd'hui, c'est un équilibre. Mais j'imagine pas un hiver sans ski. Parce que pour moi, c'est le sport le plus fou qui existe. L'ultra, c'est le sport le plus beau qui existe. Avec, voilà, il y a plus de sentiers ouverts l'été que de pistes ouvertes l'hiver. Donc c'est juste ça qui pour moi me ferait choisir l'ultra. Mais en fait l'hiver c'est une déconnexion totale avec le monde, voilà, avec l'euphorie de l'ultra. Je suis tout seul ou avec mon chien ou voilà dans des zones où il n'y a personne. Et en fait je fais les courses que je veux et voilà, c'est vraiment un équilibre de à l'année quoi.
Oui bon parce que vous l'avez compris, hein, quand on dit ski, tu prends pas les remontées mécaniques. Hein.
c'est ça.
C'est la montée en peau de chamois la redescente en ski quoi.
Le vrai ski alpinisme quoi.
Ouais c'est ça, le vrai ski finalement. est-ce que tu cours quand même l'hiver ou c'est vraiment que ski?
Si, je garde toute l'année de la course à pied parce que j'aime ça. Et puis parce que j'aime courir dans la neige aussi. Hein, ce côté en fait, pas aventurier, mais en fait en course à pied on a besoin de rien. Donc on dépend de rien. Et j'aime bien cette philosophie-là, même l'hiver, en fait, d'aller m'entraîner. Et puis, mon coach le sait mieux que moi, donc je lui fais confiance. Mais on garde un peu d'impact, quand même, pour éviter à la reprise de devoir passer par le 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Hein. Moi, je suis un peu impatient, donc j'aime bien reprendre par des vraies sorties.
Protocole hyper...
Voilà, tu vois, donc je garde 3 footings à la semaine. Et ça me suffit... Voilà.
Mieux du, toi tu fais aussi des sports croisés, un peu de vélo.
Moi, le vélo. Natation, je pas une raison à Bordeaux pour faire du ski, c'est un peu compliqué. Donc je fais du vélo. Bah, à la natation, j'en suis contraint, je kiffe pas. Donc du coup, j'y vais uniquement quand je suis blessé. Mais c'est vrai que les sports portés ont cet avantage-là de pouvoir développer la caisse sans créer justement de blessures et d'impact. En ce moment, bah, j'ai une tendinite d'Achille, donc effectivement, bah, je roule beaucoup plus que je ne cours. Et ça a cet avantage-là donc de créer de la caisse sans impact. Mais la vraie difficulté, c'est, on l'a vu avec le podcast qu'on a enregistré hier avec Gédéon Pochat, qui justement fait du ski alpinisme et qui est blessé aujourd'hui parce que sa reprise a peut-être pas été suffisamment progressive et il a eu une inflammation métatarse. Parce que quand tu viens justement d'un sport porté, si t'as pas gardé suffisamment d'impact au sol et habitué ton corps à justement subir cette contrainte mécanique qui est la course à pied, bah quand tu reprends, il faut soit passer par des protocoles comme ça, soit faire beaucoup de renfaux, Et ta problématique, c'est que tu risques, même si tu fais tout bien, tu risques peut-être te blesser en augmentant ta charge de volume. Donc effectivement, je trouve que garder malgré tout trois fois par semaine, ça c'est un conseil qu'on peut donner à tous les coureurs qui vont sur des périodes couper un peu et aller sur des sports portés, s'ils le peuvent, garder quand même un peu ce stress mécanique pour à la reprise pas repartir de zéro et devoir prendre 2-3 mois de réathlétisation, course à pied pure. Pour pas se blesser derrière, ouais.
Mais t'as entendu, hein, du coup, si tu te mets au trail d'ici 2-3 ans, va falloir faire du ski pour faire la caisse.
Alors, ouais, c'est pour ça que là, ça va être compliqué. Mais moi, si, le ski, mais remonte pente, quoi. Tu prends les œufs, le coucou avec tout le monde et tu fais que la descente.
C'est plus facile aussi. Hein.
Sur la piste verte, et au moins, pas de risque.
En chasse-neige.
En chasse la neige.
Non, mais aussi, c'est important aussi pour prévenir des blessures, de pas faire de la course à pied vraiment tout le temps, toute l'année, que ça, et de faire de la glisse, quoi, finalement.
Ouais. Alors après, on n'est pas le bon exemple en ski alpinisme parce que il y a quand même beaucoup de blessures. En tout cas, si on fait de la compétition, parce que par exemple l'exemple de la Pyramenta, j'ai des amis qui ont voulu essayer élite, ils se sont blessés. Il faut avoir des genoux très solides, on a du matériel très très léger et on descend, on pose le cerveau, mais vraiment quoi. S'il y a chute, en général, c'est soit une casse matérielle, soit une casse. Osseuse ou ligamentaire. Donc voilà, faut quand même dire aux personnes que ski de randonnée, pourquoi pas, ou vélo, home trainer, mais en compétition on prend quand même des risques. Faut juste, moi je le fais parce que j'aime ça, mais c'est sûr que voilà, c'est plus un moyen de m'évader.
Toi aussi un moyen de t'évader, Paul, le kayak c'est ta première passion finalement, c'est important de le garder dans ton rythme.
Oui, c'est important, j'en fais depuis que j'ai 6 ans alors que ça fait 4 ans que je cours maintenant. Donc arrêter du jour au lendemain pour passer sur un autre sport, l'équilibre serait plus du tout bon. Donc je navigue moins, hein, je navigue beaucoup moins. Je vais pas du tout dire que je cours 20 heures par semaine et que je fais 20 heures de bateau, ça c'est pas vrai. Et là maintenant je navigue, je dirais deux fois par semaine à peu près. Mais par contre, sur tout ce qui est sport croisé, l'hiver, moi je fais pas de ski de rando. Parce que j'habite dans les Pyrénées et j'habite à 500 mètres d'altitude. Donc en fait pour trouver la neige, j'ai déjà une heure, au moins une heure et demie de route. Mais par contre, je fais plus de ski de fond. Donc, tu parlais tout à l'heure de blessures ou quoi. En ski de fond, quand même, pour se blesser, faut s'énerver un peu. Donc, que ce soit classique ou en skating, je fais pas mal de classiques, en fait, parce que sur le mouvement de la course à pied, en fait, on est quand même dans l'axe. Donc, ça utilise quasiment les mêmes muscles, mais sans les impacts. Donc, je trouve ça très, très intéressant. Mais je fais pas du tout de compète. Pas du tout de compète de vélo, pas du tout de compète. J'ai fait une fois une compète de vélo. Je m'étais fait une fracture de fatigue en 2022. J'avais roulé tout l'hiver. Je m'étais dit, maintenant que t'as la caisse en vélo, va rouler dans un peloton. Sauf que j'avais jamais fait. Ça n'a pas loupé.
Là,
j'ai pris une belle boîte.
Clavicule, allez hop, terminé.
Pas clavicule, mais j'avais tapé sur le dos. Enfin, pas bon. Et je me suis dit, mais en fait, reste dans ce que tu sais faire. Tu peux rouler, tu peux aller faire du ski de fond.
Oui, mais
après du trail au peloton, c'est vrai que t'as fait.
Ouais,
peur,
voilà. Donc j'ai appris ce jour-là que je suis pas un bon frotteur.
On n'a pas vu encore de trailer sur le Tour de France. Hein.
Non.
Mais, à part ça, tu fais aussi. Là, c'est la même discipline, mais c'est tellement différent qu'on pourrait catégoriser ça dans un autre sport. T'as fait la Saint-Élion cet hiver, l'hiver dernier.
Oui.
Là, c'est pour travailler les lacunes. C'est pour pourquoi tu as fait ça?
Exactement. Je disais, ça fait 4 ans que je cours maintenant. En 4 ans, on passe pas d'un 10 000 en 38 à 31. Ça marche pas, en fait. Enfin, sauf si on se fait que de la route. Mais moi, je fais du trail. Donc, en fait, je suis un athlète qui résiste très longtemps. Mais pas très vite. Ça, je le sais. C'est pas le scoop de l'année. Je cours pas le 10K en 30 minutes. Et pendant la période hivernale, cet hiver, j'ai vraiment pour objectif un petit peu d'arrêter le trail et de me mettre sur la route. D'aller voir sur un semi, d'aller voir sur un 10 km pour aller travailler les lacunes. Parce qu'en bosse, j'en fais tellement toute l'année que maintenant ça va mieux, j'arrive à monter beaucoup plus vite. Mais à plat, ça reste quelque chose où, voilà, moi, autour des 3-20, je suis vraiment pendu, quoi. Ça commence à vraiment être dur. Et je sais que maintenant sur un UTMB, le top 10, on parle de gars qui sont autour de 31 sur 10K, en fait. Ou même 30, ça n'existe plus, quelqu'un qui est en 35, tout ça. Donc faut vivre avec son temps, et le trailer qui dit « moi j'aime pas faire de la route », je pense que maintenant sur des courses de haut niveau, il n'existe plus, en fait.
faut aller voir Maître
Jim passé, il était en talons fesses encore au 50e quand il est passé devant là, il était encore foulé de pistard, hein, ça était pointe de pied, ça a déroulé, c'est dingue.
Il suffit de regarder les traces de boue qui remontent jusqu'au cou.
Ouais, quand on a dans le cou, c'est que ouais, t'as un passé de pistard, hein, et c'est que ça va vite, ouais.
Il faut aller voir Maître Yudu, il va t'apprendre les crosses, tu vois. Pas mal
de trailers font les crosses l'hiver, hein, c'est en termes pour se dégager. Alors faut faire attention parce que si tu mets les pointes, c'est pour les mollets et tout, si t'es pas habitué, ça peut être compliqué. Mais les crosses sont un bon moyen de se débrider et de changer un peu d'univers. Ouais.
Bon, on va être honnête, hein, y a les cloches, il y a les coureurs qui passent.
Il y a encore des coureurs qui arrivent.
C'est,
hein,
les arrivants de la PTL.
Ouais, ils ont plus de 100 heures de.
Alors eux, ils font pas du 3-20 sur du plat.
Et là, bravo. Ouais.
Ouais. Il faut c'est ça aussi, hein, d'être à Chamonix, c'est pour ça qu'on est venu ici, c'est pour vivre ces moments-là. Bah, je peux vous dire que là, ces deux coureurs, ils ont une arrivée extraordinaire alors qu'on est encore à bien 2 heures du départ de l'UTMB. C'est magique, Chamonix-Julien, aussi, pour ça.
Ah ben, c'est devenu vraiment quelque chose d'exceptionnel au niveau de l'ambiance. Et sur toute une semaine, ça vit trail et on croise des passionnés de partout et ça fait plaisir. Et de voir des gens passionnés d'outdoor, passionnés de montagne, dans une période qui est compliquée, ça fait du bien de voir ces gens avec le sourire dehors.
Et tu disais pour la charge mentale, notamment à l'UTMB, essayer de pas pleurer au départ, de pas être trop émotif. Là par contre à l'arrivée, faut tout lâcher.
Tu peux te lâcher.
Il y a la musique là, mais moi j'ai envie de pleurer.
Et ouais. Non, faut tout lâcher à l'arrivée, mais comme tout, faut être vigilant et on se rend compte que beaucoup d'athlètes. Jim a glissé à 100 mètres de la ligne.
À 100 mètres dans le virage là.
L'an passé, Vincent Bouillard se casse un orteil à moins d'un kilomètre de l'arrivée. Il faut être vigilant et vraiment relâcher au dernier moment, rester focus jusqu'au bout parce que bah, l'émotion est tellement forte, il faut quand même rester vigilant parce que la ligne, il faut l'atteindre.
Ouais, Arthur, comment est-ce qu'on gère ça là, ces dernières heures quand on va faire l'UTMB? Peut-être ceux qui nous écoutent sur RMC Running pour les futures années, 2-3 conseils pour gérer cette course et les courses de manière générale, hein, pas que celle-ci.
Il y en a, ils vont se dire on prend pas ces conseils parce que souvent au départ... Je pars un peu vite, mais en fait c'est ce que dit Julien, il y a une telle ambiance, il y a une telle euphorie que au départ je dirais se faire plaisir quand même, voilà, sans se cramer, hein, on est d'accord. Et à l'arrivée c'est la seule course, alors peut-être ça le sera plus si à la diagonale ça se passe bien, mais c'est la seule course où je pleure en fait à l'arrivée, quand on descend de la Flégère, c'est-à-dire qu'il reste quoi, 2 km. Là en fait là tu peux relâcher normalement si tu joues pas le fight à 1 minute. Et là c'est juste bah tu vois la musique là m'y faisait penser, mais bah tu sais que déjà l'an prochain si tu prépares pas une autre course tu seras là parce que c'est juste unique. Tu viens de passer 20 heures en montagne à bloc. Les gens qui ne courent pas s'en rendent pas compte, mais c'est une vie quoi. C'est tellement éprouvant.
Ah, oui,
tu
oui.
passes par des hauts, des bas, des. Et en fait, quand tu arrives là, tu remercies tout le monde.
Ouais.
Toi y compris, mais tout le monde.
Et oui, bah, cette musique, elle fait quand même effet. Hein. Même si on vient pas du trail, il y a les frissons directs.
Bah, c'est ça, je pense que si on vient pas du trail, qu'on vient se balader à Chamonix pendant cette semaine et qu'on a la chance d'être là, après là, on vient d'entendre ceux qui viennent d'arriver de la PTL, faut se rendre compte qu'ils sont partis lundi. Hein, on est vendredi.
Bah, dis comme ça.
Tu parlais de 20h pour l'UTMB, mais eux, en fait, ça fait 5 jours.
Bah ouais,
donc tu retournes à la civilisation, t'as tout le monde qui te crie dessus. Enfin, c'est. Et je pense que.
C'est un choc. Il va retrouver une douche, il va retrouver un lit, le mec, il a. Et c'est pour ça qu'il pleure.
Ouais. Ouais,
c'est ça. Putain, ma chambre d'hôtel.
Et même si on fait pas du trail, en fait, on se rend compte de ce que les personnes viennent d'accomplir et la musique, l'émotion. L'émotion qu'on voit, c'est incroyable. Même pour les derniers. On parle beaucoup des élites là depuis tout à l'heure, mais les derniers qui vont mettre 50, 60 heures à faire l'UTMB, en fait, quand ils arrivent, c'est 3 fois plus que les premiers. Mm. Donc derrière, il y a des histoires en fait derrière chaque personne qui passe la ligne d'arrivée. Et souvent, ceux qui font dans les derniers, ils font pas ça juste pour finir l'UTMB, c'est parce qu'il y a une vraie histoire derrière et c'est ça qui est très, très beau dans notre sport.
Oui, c'est pour ça que sur RMC Running, on adore croiser ces différents parcours, les élites et les amateurs comme Claire qui a terminé sa course tout à l'heure. Merci à tous en tout cas de nous avoir suivis en ce jour de grand départ ici à Chamonix pour l'UTMB. Bon, bah, il n'y a plus qu'à suivre finalement cette course d'anthologie 2025. Et restez branchés surtout sur RMC Running parce qu'on vous promet encore plein de surprises tout au long de cette fin de semaine à Chamonix. Rémi. Pour terminer, vous en avez l'habitude du conseil de respiration que tu connais, toi, de Benoît Boutron. Moi, je vais faire différent pour cette UTMB. Je vais vous dire tout simplement que sur ces sentiers, levez les pieds, parce que ça aide à ne pas tomber. Salut à tous.
RMC Running.